Alors, pour cette troisième partie de Radio Barc, donc Alain Perréan, notre député En Marche, comment on dit à propos macronien ou macroniste? Qu'est-ce qui se pratique dans le vocabulaire actuel?
Bon. C'est une... l'un et l'autre, ou ni l'un ni l'autre.
Ou ni l'un ni l'autre, enfin bon, vous êtes En Marche. Alors, un sujet très important qui a été évoqué tout à l'heure, la ligne TGV, et notamment le chaînon manquant Perpignan, Montpellier, quand on est député de l'Aude, de la deuxième circonscription, c'est un sujet qui doit quand même vous interpeller.
Oui.
Et vous mettre peut-être mal à l'aise, je ne sais pas.
Pas du tout.
Non, alors, allons-y.
Pas du tout. D'abord, première chose, dire que depuis que je suis à Paris, j'ai énormément travaillé sur cette question. Je ne vais pas vous faire la liste, là, qui ressemblerait à une litanie de toutes les personnes que j'ai auditionnées, toutes les personnes que j'ai rencontrées, en allant jusqu'à la ministre, en allant jusqu'à Guillaume Pepy, en rencontrant des experts, en faisant des réunions.
Guillaume Pepy, président de la SNCF.
Tout à fait, tout à fait. Donc, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que cela fait des années que sur ce territoire, on nous ment et on nous promène avec cette ligne. J'ai participé, quand j'étais sur le territoire, à des réunions où on nous disait « pas de problème, elle va arriver ». Quand j'arrive à Paris, je dis « mais où sont les plans de financement ? Comment on va organiser tout ça ?» Il n'y a rien. Que ce soit au niveau local comme au niveau national, il n'y a rien.
Mais c'est une énorme esbrouffe, alors, finalement.
Non, je pense que c'était une stratégie, qui était une stratégie de dire que l'on allait mettre des infrastructures partout en France. C'est une stratégie qui avait été initiée par le général de Gaulle. Voilà. Et depuis, personne n'a été capable de la remettre en cause. La première à la remettre en cause, c'est la ministre actuelle qui dit « il faut que nous passions d'une logique d'infrastructure en France à une logique de mobilité. Comment nous nous déplaçons globalement ?» Et pas uniquement en ayant une première logique qui on met des autoroutes partout. Enfin, d'abord, ça avait été des nationales, puis des autoroutes, puis au final, des lignes TGV. On a eu un passage par l'avion. Voilà, donc, on nous a menti. Et il est temps d'arrêter de s'agiter, de faire de grandes messes dans lesquelles les gens s'agitent et montent sur scène pour répéter en grande partie des contre-vérités. Ce n'est pas parce qu'on répète des contre-vérités en permanence qu'elles finissent par devenir des vérités. Voilà. Et donc, il est temps d'avoir un discours qui est un discours de la vérité. Aujourd'hui, nous avons besoin, sur les infrastructures, de faire une pause en France pour à la fois entretenir les réseaux dont a parlé déjà Michel Santo, mais aussi pour que les territoires se questionnent sur quelles sont leurs mobilités du quotidien. Moi, je veux bien que l'on mette 20 milliards sur cette ligne, mais et je vais rester que local. Je pourrais parler de la gare de Toulouse qui n'a jamais été réorganisée, mais je vais rester local pour que les auditeurs comprennent. Nous n'arrivons pas à financer le contournement de Coursan. Nous n'arrivons pas à financer le chaînon qu'il y a entre la sortie d'autoroute et la zone d'activité de Montredon. Nous n'arrivons pas à financer le contournement de Lézignan. Et je pourrais en citer, nous n'arrivons pas à financer la restructuration de la gare de Narbonne. Que les gens qui prennent le train à Narbonne se retournent et regardent toutes ces lignes qui sont actuellement sans aucune utilisation. Personne ne met un euro là-dessus parce que tout le monde se focalise sur cette arrivée du TGV. Et donc l'objectif n'est pas de dire on est pour, on est contre le TGV, il faut ou il faut pas le TGV. L'objectif est de dire posons-nous les vraies questions. Et les vraies questions aujourd'hui, ce sont les mobilités du quotidien. J'ai envie de terminer sur cette question que je pose aux auditeurs. Combien de fois prennent-ils le TGV pour aller à Paris? Combien de fois? Et combien de membres de leur famille prennent le TGV pour venir les voir? Et ces personnes-là, est-ce qu'elles peuvent pas perdre un quart d'heure? Et la semaine dernière, je participais à un colloque avec Nicolas Vanier et qui disait ce quart d'heure, plutôt que d'investir des milliards pour qu'il aille plus vite, investissons quelques millions et rendons-le un quart d'heure de bonheur.
C'est une belle formule. Alors, on verra par la suite ce qui sortira de tout ça, mais il est quand même intéressant d'entendre qu'il faut peut-être enfin oser dire la vérité. Mais c'est pas toujours évident de dire la vérité quand on est élu et qu'on veut se faire réélire.
Alors, moi, ça a toujours été mon principe, dire la vérité. Je ne me fais pas que des amis, je ne me fais pas que des gens qui disent c'est bien ce que tu fais, peu importe. Je le fais avec ce qui a toujours marqué mon caractère, c'est à la fois une sorte de volonté de faire avancer les dossiers, qui est d'ailleurs, mais je pense qu'on en reparlera, déjà compris à Paris, ils ont compris qu'ils allaient avoir un député qui allait se bouger. Et la deuxième chose, c'est c'est de me rendre compte au quotidien. La semaine dernière, samedi, dimanche, j'étais sur les marchés du Narbonnais. Voilà. Et ma plus belle récompense, c'est une commerçante des Halles qui m'arrête et qui me dit « Monsieur Perea, vous le savez, je ne suis pas pour vous. Je n'ai même pas voté pour vous. Mais je dois vous dire deux choses. La première, vous êtes le premier élu qui revient sur le terrain 6 mois après. Chaque fois on nous l'a promis, personne ne l'a fait. Vous êtes le premier depuis que je suis là à le faire. Et la deuxième chose, c'est qu'elle me dit « Vous aviez pris des engagements, soit le monsieur Macron, soit vous, et ces engagements, vous les tenez. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce que vous faites, mais au moins, vous êtes dans une ligne qui est une ligne, on sait où vous voulez aller et vous appliquez ce que vous avez décidé de faire. » Voilà, et donc, au-delà de ça, je crois que les Français et les Françaises sont des gens, ils sont capables de comprendre. Michel le disait tout à l'heure, Michel Santo, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On peut leur expliquer, ils peuvent comprendre. Quand on est à la maison, là on va arriver dans une période où il y a des dépenses importantes, on fait des choix. Bien sûr qu'on aimerait acheter tout à tous les enfants et on aimerait acheter, mais on fait des choix. Et là au niveau national, on a encore des élus qui montent sur scène et qui disent « nous n'avons pas l'argent, mais on va quand même le faire ». Oui. C'est quand même impressionnant. Nous n'avons pas l'argent, mais nous allons encore le faire. Ça ne peut pas durer. Il faut dire, nous avons un certain nombre de choix à faire, et ces choix, nous allons les organiser. Mais cela n'impose pas l'inactivité, c'est ce que je dis et je redis. Nous avons tellement de choses à faire sur notre territoire. Oui. Appuyons-nous sur les industries que nous avons, développons au niveau des nouvelles énergies. Il y a un formidable levier là autour des énergies nouvelles, il y a un formidable levier autour des nouvelles technologies. Nous avons un potentiel énorme. Travaillons là-dessus et si nous avons quelques milliards à investir, investissons-les sur des voies d'avenir, pas sur des voies qui sont sur des voies du passé. Je voudrais juste terminer en disant deux choses. La première, c'est regardons les territoires qui ont déjà des lignes TGV. S'ils étaient sur des dynamiques de développement avant le TGV, ça a continué. Mais s'ils n'étaient pas sur des dynamiques de TGV, de développement, rien ne s'est passé sur ces territoires. Et donc, dire ou penser que le TGV va être une forme d'explosion, d'un point de vue économique, ce n'est vrai nulle part en France. Et la deuxième chose qui me paraît importante de rappeler, c'est que nous avons la possibilité sur ce territoire d'avoir un développement avec nos propres forces. Nous avons de la matière, nous avons déjà des atouts formidables. Arrêtons de supplier Paris ou je ne sais qui pour nous développer. Utilisons nos propres forces. Soyons fiers, je l'ai dit récemment, soyons fiers d'être de ces territoires. Appuyons-nous sur nos outils, appuyons-nous sur nos forces. Et le TGV viendra à l'heure et c'est lui qui demandera de venir jusqu'ici.
Alors il faudra peut-être savoir attendre. Mais si je puis conclure ce petit sujet sur une formule, même en cette période, il faut arrêter de croire au Père Noël. En fait, c'est ça la teneur du message.
C'est ce que j'ai dit à la ministre. J'ai dit à la ministre, la difficulté que nous avons, Madame la ministre, c'est que depuis des années, les élus ont fait croire, à tous les niveaux, que le TGV, c'était le Père Noël. Voilà. Mmh. Et là, nous, aujourd'hui, il va falloir que l'on explique que le Père Noël n'existe pas. Voilà. Mmh. Mais les Français sont des adultes. Les Français ne sont pas des enfants. Il faut arrêter de les infantiliser. Il faut prendre les Français pour ce qu'ils sont. Et moi, quand j'en parle avec les gens dans la rue, chez moi et autour de moi, les gens le comprennent et comprennent que si on a besoin de faire une pause, faisons une pause et réglons leurs problèmes du quotidien. Ils en ont besoin.
Alors, on aimerait, à propos du quotidien, justement, vous êtes Alain Perea, donc un nouveau député, puisqu'il y a 5-6 mois que vous êtes élu. On aimerait découvrir un peu ce que c'est que la vie d'un député, alors provincial, sans que ça n'ait rien de péjoratif, bien entendu, mais qui vient de loin, déjà. Il y a les problèmes de transport, il y a les problèmes de séjour, etc. Et puis, il y a les problèmes d'activité. Et puis, on sait qu'un provincial à Paris, c'est pas toujours évident pour s'y retrouver et se faire entendre. Alors essayez de nous expliquer en quelques mots.
Alors d'abord, dire que le travail de député a profondément changé et va encore changer au cours du prochain mandat. Pourquoi il a profondément changé ? En gros, pour deux choses. Une qui est due à ce gouvernement et une qui est due aux décisions qui avaient été prises précédemment. D'abord, c'est la fin des députés maires ou des sénateurs maires. Et donc, les administrateurs, hein, ceux qui sont les fonctionnaires de l'Assemblée, nous le disent. Quand l'on faisait avant une réunion en dehors du mardi et du mercredi, soit il n'y avait personne, soit ce qui était décidé n'avait pas de valeur et était remis en cause parce que les gros responsables des partis étaient souvent ailleurs, députés-maires, et donc ils étaient ailleurs. Et donc, ce qui se passait...
Donc, première remarque, aujourd'hui, on a des députés qui ont le temps de faire leur travail.
Et qui restent à Paris. Moi, je pars souvent le lundi en début d'après-midi et je reviens le vendredi. Donc, on est beaucoup plus à Paris que ce que c'était par le passé. Mais c'est pas grave. Parce qu'à Paris, moi je travaille pour le territoire, je travaille bien sûr pour la France, et Michel Santo le répète souvent, on est un député de la Nation, on n'est pas un député de Narbonne. Mais il n'empêche que, moi tout le monde le sait, je garde cet ancrage fort, mais surtout, j'essaye toujours de faire avancer les lois, notre pays, avec un regard sur notre territoire, en me disant, est-ce que c'est cohérent avec ton territoire? Et si tous les députés font pareil, eh bien nous avançons progressivement. La deuxième chose...
Vous voulez dire qu'il faut arrêter peut-être de trop se regarder le nombril et intégrer les visions d'une manière générale, dans de la généralité?
Oui, il faut que l'on reste véritablement sur une logique qui est une logique nationale. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une logique nationale que l'on oublie d'où on vient. Ce n'est pas. Hier, je rencontrais des responsables des vignerons indépendants, qu'ils soient ici du département ou au niveau national. Ils m'ont expliqué, et je suis d'accord avec eux, qu'on ne peut pas traiter la filière viticole comme l'on traite les filières du lait ou la filière du blé. Pour une raison que nos auditeurs comprendront très rapidement, c'est que le lait, qu'il soit produit en Normandie, en Bretagne ou dans le Massif Central, on le met tout dans une même cuve.
Voilà, ça devient un produit industriel.
Et on peut le massifier, même s'il y a ici et là des niches, hein, mais on peut le massifier. Pareil pour le blé. Ce n'est pas du tout le cas du vin français. Et donc, moi, je travaille au niveau national sur une logique de la refonte agricole globale, notamment en étant le seul député français à siéger au sein de France Agrimer, mais je garde un ancrage local en me disant, ici, attention, il y a du vin, fais attention que le vin ne soit pas traité comme du lait ou du blé. Et donc, on a les deux, et on peut très bien faire les deux. La deuxième chose que je voudrais dire pour répondre à votre première question, qui était l'évolution sur le travail de député, c'est que avec cette nouvelle façon de fonctionner, et notamment le fait que les Français aient envoyé beaucoup d'élus en marche à l'Assemblée nationale, eh bien nous n'avons pas le mode de fonctionnement traditionnel qui était qu'il y avait une hiérarchie dans les députés avec le premier, le deuxième, le troisième, voire le quatrième mandat et des fois plus. Et donc là, quand nous sommes arrivés, à part peut-être une vingtaine de députés qui avaient déjà l'habitude, tous les autres, on était sur un même pied d'égalité. Et donc, nous avons eu des opportunités formidables. Certains les ont saisies, c'est mon cas, je reviens sur France Agrimer, mais aussi vice-président d'une commission. Ça fait des années, on n'arrive pas à retrouver la dernière fois que l'on a eu un Odoa qui a été vice-président d'une commission. Voilà.
Donc, on en est là.
Oui, on n'arrive pas à retrouver exactement la dernière fois que l'on a eu un endroit vice-président d'une commission. Et donc, c'est une opportunité formidable qui me place dans une dynamique autour de l'aménagement du territoire vraiment, vraiment exceptionnelle. Alors, j'ai pas le temps de le développer
cette
là.
Cette commission, c'est l'aménagement du territoire.
Oui, donc c'est la commission aménagement du territoire et développement durable, qui est présidée par Barbara Pompili, dont je suis le vice-président. Barbara Pompili, tout le monde la connaît, elle a un parcours qui est plus orienté sur les questions de biodiversité et environnement. Elle arrive des Verts, elle était secrétaire d'État à la biodiversité. Et donc moi, je suis identifié comme étant le député qui est plus sur les questions d'aménagement du territoire et sur toutes les questions qui vont être liées à la cohésion du territoire. Donc c'est passionnant, je m'investis énormément, mais je n'oublie pas d'où je viens et donc je garde ce lien entre le territoire, le national et l'international, puisque récemment j'étais à Tallinn et que je vais partir prochainement à Ouarzazate sur des questions de développement.
Alors Tallinn en Estonie, c'est ça ?
Tallinn en Estonie, puisque c'est actuellement le pays qui préside l'Union européenne, donc les réunions se font là-bas. Sans revenir sur le TGV, j'étais le député qui représentait la France sur les questions d'infrastructure au niveau européen. On parlait des aéroports, on parlait des voies ferrées grande vitesse et autres qui vont relier un certain nombre de pays, qui devraient relier, parce que là aussi on se pose un certain nombre de questions. Voilà, donc quand je parle notamment des questions d'infrastructure, je pense savoir un petit peu de quoi je parle. Et je fais juste une petite parenthèse. Je regrette que, notamment, les gens qui aujourd'hui s'agitent n'aient pas pris une seule fois le soin de me demander mon avis sur le sujet.
Alors, pour rester justement sur cette nouvelle vie, parce que c'est véritablement pour vous un changement de vie, vous aviez, j'imagine, avant des attentes, peut-être des illusions. Est-ce que vous avez eu, expliquez-nous en quelques mots, les bonnes et les mauvaises surprises de cette nouvelle vie?
Alors, les bonnes surprises... Je dirais que c'est la capacité que nous avons à avancer collectivement et à changer les choses. Bien sûr qu'on l'avait revendiqué, bien sûr qu'on souhaitait le faire, et j'ai vraiment l'impression que l'on est sur la bonne voie.
Là, vous n'êtes pas déçu.
Non. La mauvaise surprise, c'est l'inertie d'un certain nombre de choses. Que l'on a du mal à faire avancer. Tout à l'heure, Michel Santo parlait notamment de la façon dont on a identifié et dont doit fonctionner la culture en France. Voilà. Et il y a un certain nombre de grands corps d'État, et je ne veux pas forcément tomber dans la critique des fonctionnaires, puisque j'en fais partie. Donc ce serait stupide que de taper sur les fonctionnaires, pour le plaisir de taper sur les fonctionnaires, mais nous avons là un défi à relever. Le mouvement En Marche a un défi à relever, c'est que les grands corps de fonctionnaires changent comme les Français le souhaitent et comme nous voulons le faire changer. Voilà. Et là, que ce soit moi ou d'autres, nous nous heurtons à un certain nombre de difficultés, mais je ne doute pas, parce que ce sont des gens intelligents, qu'ils vont vite comprendre que les choses changent. Je voudrais juste dire que je date de 2005, pour un fait personnel, peu importe, les discours où la France allait mal, c'était la faute à l'ENA. Il fallait supprimer l'ENA. Voilà. Ils sont tellement forts qu'ils ont réussi à inverser le truc. On ne parle plus jamais de l'ENA. C'est la faute au personnel politique. Voilà. Si la France marche mal. On a inversé complètement la chose.
Ce qui est quand même assez souvent la même chose.
C'est vous dire s'ils sont forts. Voilà. Et donc, Moi, je pense que, et j'y suis confronté là au quotidien, je pense que l'on a un effort à faire de pédagogie, de discussion, d'échange, pour que on avance collectivement, pas en s'opposant les uns les autres, mais en faisant passer notre message. Les Français ont eu envie que ça change. L'Assemblée nationale a changé. Maintenant, il faut que l'administration française change aussi.
Alors, pour conclure, Alain Perea, donc vous faites partie du mouvement, ou du parti maintenant, c'est un parti En Marche.
Oui, moi, je ne vais pas jouer avec les mots. Il y en a qui jouent sur les mots. C'est un mouvement, c'est un parti. Moi, je pense que c'est un parti politique. C'est pas. Voilà. Simplement, j'écoutais ce matin une émission. Est-ce que c'est la fin des partis? Je crois que c'est la fin des partis tels qu'on les a connus, et notamment des partis d'élus. Il faut arrêter avec des partis d'élus où les élus, et on a eu une illustration tout à l'heure on montrait un mouvement citoyen qui en fait était une caricature d'un mouvement citoyen. Et donc on s'est coupé de la base. Les députés d'opposition, quand nous sommes arrivés à l'Assemblée, nous ont pris pour des perdreaux de l'année. Voilà. Ils pensaient qu'on ne comprenait rien à rien. Et quand on est arrivé sur le code du travail et qu'ils ont eu un face d'eux, des avocats qui jusqu'au mois de juin étaient spécialisés dans le code du travail, quand ils ont eu en face d'eux des gens qui étaient patrons d'une entreprise où il y avait plus de 1500 employés, quand ils ont eu en face d'eux des anciens syndicalistes, quand ils ont eu en face d'eux des gens qui avaient été confrontés au chômage à plusieurs reprises, ils se sont retrouvés fort déconfits parce qu'ils pensaient qu'ils allaient nous raconter comment on allait faire la loi et que l'on n'y comprenait rien. Sauf qu'ils ont été la coincée. Encore hier, un député nous expliquait, de l'opposition, peu importe lequel, nous expliquait comment on allait gérer les petites communes en France. Jusqu'à un moment où je lui ai dit, mais comment oses-tu me dire ça? Comment oses-tu? Tu ne me prends pour qui? Tu nous prends pour qui ici? Il y a des gens qui ont été sur le terrain. Et donc, on est véritablement sur ce changement. Et les partis, et si En Marche est un parti, ce qui est important, c'est que nous allons fonctionner de manière différente. Et je termine sur ça. Le député que je suis n'est pas, comme c'était le cas dans le passé, le grand chef du mouvement sur le Narbonnais. Il y a des gens comme Christine Breton, David Granel, qui s'investissent, qui font leurs actions, et nous avançons collectivement, et nous avons rompu avec ces logiques qui étaient des logiques du passé et des logiques dépassées. On le voit bien. Même les anciens députés, on vient d'en parler, ils ont du mal et ils sont encore en train de s'accrocher à leurs vestiges du passé et à leur... je dirais, place du passé. Non, il faut libérer les choses et travailler tous ensemble.
Merci Alain Perea donc, d'être venu à la fois nous faire part de votre expérience de nouveau député, puis surtout de la façon dont les choses se passent, et surtout de la façon dont les choses vont normalement, dorénavant, se passer. Le prochain invité, eh bien pour une fois on changera un tout petit peu, ça sera Manuel Garcia, qui est un ancien gendarme et qui s'est reconverti un peu dans l'écriture de livres, basé fortement sur son expérience d'ancien gendarme. Ça sera notre prochain invité. Et puis tout de suite après, on reviendra du plus traditionnel avec Sébastien Plat, avec lequel nous parlerons de tourisme régional, départemental et peut-être local. Maire de Duyac-Peyrepertu.
Duyac, 150 habitants.
Oui. Voilà, merci.
Mais président de la commission de tourisme de la région Occitanie.
Voilà, l'un n'empêche pas. Il sera notre invité pour clôturer cette saison hivernale. À la semaine prochaine et merci d'être resté en notre compagnie. Merci, monsieur le député.
À bientôt. Merci.